Aujourd'hui, je vais vous parler de la diversité d'une espèce animale particulière qui est la nôtre, donc Homo sapiens, l'homme. Et voilà, je vous donne en gros les étapes principales de ce dont je vais parler. Je vais essayer d'approcher le plus simplement possible qu'est-ce que ça veut dire de la diversité, qu'on l'applique à l'homme ou qu'on l'applique à autre chose. Ensuite, je vais commencer par un débat historique qui est le fondement de toutes les discussions actuelles sur la diversité humaine et qui a eu lieu il y a déjà plusieurs siècles sur combien d'espèces constituent l'homme. Je pense que vous savez déjà la réponse. Maintenant, on pense qu'il y a une espèce humaine, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas toujours eu une espèce humaine, mais tout le monde n'a pas toujours pensé qu'il n'y avait qu'une espèce. Et ensuite, je vais parler de mode de transmission de la variation, parce que quand on dit diversité, on dit variation, donc ça veut dire que tous les gens ne sont pas pareils. Et comment ces différences se transmettent-elles? Est-ce qu'elles se transmettent? D'abord, il y en a qui se transmettent, il y en a d'autres qui ne se transmettent pas. Est-ce qu'elles se transmettent de parents à enfants? Est-ce qu'elles se transmettent de manière génétique ou non? Et enfin, je vais me concentrer précisément sur la partie génétique de cette variation, donc la diversité génétique humaine, et essayer de comprendre d'où elle vient. Alors, ça veut dire qu'on va parler de la géographie de cette diversité humaine, comment elle est répartie dans le monde, et de son histoire qui permet de comprendre cette répartition. Et enfin, je terminerai sur le rôle de la sélection naturelle et du hasard dans la constitution de notre diversité génétique actuelle dans l'espèce humaine. Donc, comme on vous l'a dit, si jamais vous avez la moindre question de compréhension, il vaut mieux la poser tout de suite plutôt que de ne pas comprendre pendant un quart d'heure. N'hésitez pas. Donc là, j'ai commencé par une image qui est une de celles qui vient le plus souvent dans les médias lorsqu'on parle de diversité récemment. Alors là, ce n'est pas tout intéressant parce que ce n'est pas le gouvernement actuel, mais le gouvernement précédent. Vous avez plusieurs personnes, je ne sais pas si vous les reconnaissez toutes les trois. Donc il y a Ramayad, Rachida Dati et Fadela Amara qui ont fait partie du gouvernement, le premier gouvernement Sarkozy. Et dont on a dit à plusieurs reprises dans les médias qu'elles étaient issues de la diversité, qu'elles représentaient la diversité au sein du gouvernement, même si actuellement elles n'y sont plus. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut être issu de la diversité? Est-ce que cet emploi du terme diversité est correct? Si on continue sur cette logique-là, si on dit que quelqu'un peut être issu de la diversité, ça veut dire qu'il peut y en avoir qui viennent de la diversité, d'autres qui viennent de la non-diversité, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui viendraient de l'uniformité. Donc par exemple, François Fillon, qui n'est pas considéré comme quelqu'un issu de la diversité, viendrait de la non-diversité, et Ramayad, elle viendrait de la diversité. Donc ça suppose que la diversité c'est un groupe, la non-diversité c'est un autre. Ce que je veux faire passer comme message ici, c'est que cet emploi du terme diversité ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas caractériser une personne par le fait qu'elle est diverse ou pas. Ça ne peut pas s'appliquer à une personne. Donc la diversité ne peut pas être une origine de quelqu'un. La diversité, c'est forcément une propriété qui va s'appliquer à un groupe. Donc ici, vous avez deux carrés qui représentent deux groupes complètement théoriques. Là, ce coup-ci, j'ai pas mis des personnes dessus. Vous avez le carré de gauche qui représente un groupe de diversité faible et le carré de droite qui représente un groupe de diversité élevée. Vous voyez tout de suite ce que je veux dire par diversité faible et élevée. Vous avez plus de couleurs différentes à droite qu'à gauche. Et donc, ici, la diversité, elle va c'est une propriété de deux choses. Premièrement, d'un groupe sur lequel on va la mesurer, et deuxièmement, d'une mesure. Ici, c'est la diversité des couleurs qui est plus forte à droite qu'à gauche. Parce que vous avez du rouge, du bleu, du vert à droite et que vous n'avez que deux couleurs à gauche. Par contre, la diversité des formes, elle est nulle dans les deux cas parce que vous n'avez que des petits ronds à l'intérieur de chaque groupe. Mais la diversité d'une mesure n'est pas forcément la diversité d'une autre. Donc, selon le type de mesure qu'on va faire, on ne va pas forcément dire que c'est le même groupe qui contient la plus grande diversité. Alors maintenant, quand on cherche la diversité humaine, la première chose qui vient en tête, c'est la diversité d'apparence physique entre les gens. Donc ça, on en a tous l'expérience, on en a tous vu plus ou moins. On n'a pas forcément vu un échantillon global de l'espèce humaine parce qu'on n'a pas voyagé partout, mais cette diversité est évidente. Ça, c'est une affiche ou un bandeau d'exposition qui est un projet réalisé actuellement par Yann Arthus-Bertrand, photographe, qui a eu comme projet d'aller photographier des gens aux quatre coins du monde et de leur demander de raconter leur histoire. Donc c'est un site où on peut cliquer sur chaque personne et on a une interview de cette personne qui raconte sa vie. C'est assez intéressant. Et c'est vraiment la logique de ce projet est de valoriser cette diversité des histoires personnelles et des apparences entre les gens. Donc ça, c'est un premier niveau facile à observer de qu'est-ce que c'est la diversité. Puis on est tous là-dedans, hein. On peut être un de ceux-là. Là. Et cette diversité d'apparence physique, c'est elle qui a nourri depuis très longtemps un débat sur comment classer les différentes apparences physiques humaines. Ce débat, c'est l'origine de la création d'une notion qu'on connaît tous dans le langage, qui est la notion de race, et qui est, en général, dans notre imaginaire collectif, associée à la couleur de la peau des gens. On va dire la race noire, la race blanche, etc. Cette notion de race n'est pas toute récente, elle est même très vieille. Elle s'est cristallisée, on va dire, au XVIIIe siècle, avec un débat entre deux options qui étaient à la fois des options scientifiques et des options religieuses à l'époque. L'une s'appelait le polygénisme et l'autre le monogénisme. Alors, qu'est-ce que c'est le polygénisme et le monogénisme? Vous savez que, donc, en Europe à l'époque, le dogme chrétien prévalait dans le sens où le récit de la Genèse qui dit que l'ensemble de l'espèce humaine est dérivé de Adam et Ève était considéré comme acquis et valide. Et ce récit postule ce qu'on appelle le monogénisme, c'est-à-dire que toute l'espèce humaine provient d'une seule souche et qui, dans le récit biblique, était Adam et Ève. À l'opposé, les partisans du polygénisme disaient « c'est pas possible, nous avons trop de différences entre les races humaines, chacune constitue une origine séparée. Il n'est pas possible que le même couple ait engendré les noirs, les blancs, etc. » Donc vous avez quelqu'un, par exemple, comme Voltaire, qui disait dans un de ses bouquins « Il me semble que je suis assez bien fondé à croire qu'il en est des hommes comme des arbres. Les poiriers, les sapins, les chênes, les abricotiers ne viennent point d'un même arbre. » Donc là, il est en train de nous dire « Il y a des espèces différentes d'arbres. Okay. » Et que les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crin et les hommes sans barbe ne viennent pas tous du même homme. Donc là, il est en train de nous dire les différentes races humaines, c'est exactement comme les poiriers, les abricotiers et les chênes, ce sont des espèces différentes. Il en a remis une couche après. Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les otantos, les chinois, les américains, il en a rajouté quelques-uns, on a plus de catégories que ce qu'il y avait avant, soit des races entièrement différentes. Donc lui, en fait, donc à l'époque, dans un désir plutôt de discréditer le récit biblique, est partisan du polygénisme. Et à côté de lui, il y a beaucoup d'autres gens qui ont même fait des traités entiers consacrés à cette question et qui pensaient donc que l'homme était constitué de plusieurs espèces qui étaient radicalement différentes, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Donc vous voyez qu'au départ, c'est un débat qui est un peu théologique parce que c'est aussi une question d'interprétation des textes sacrés, mais c'est aussi de comprendre de quoi est constituée notre espèce. Et ce débat a des conséquences morales, c'est-à-dire qu'en fonction du choix qu'on fait de dire si, en particulier, les Noirs africains, donc à cette époque-là, font partie ou non de la même espèce que les Blancs européens, eh bien, des questions entières de société vont changer de nature. Donc c'est exactement ce que dit Montesquieu dans un texte qui est un des classiques de la philo en terminale, donc vous tomberez peut-être dessus l'année prochaine. Il est impossible que... Donc là, il parle des nègres, ce qu'ils appelaient les nègres à l'époque, c'est-à-dire l'ensemble des Africains qui, à l'époque, étaient capturés en Afrique pour être utilisés comme esclaves, notamment dans les plantations de sucre, enfin de canne à sucre aux Antilles. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Donc là, ce qu'il est en train de dire, alors attention, ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas, il est en train de faire de l'ironie, c'est-à-dire qu'il est en train de se mettre à la place d'un défenseur de l'esclavage pour pouvoir le discréditer. Et il dit, si je suis logique, je sais qu'il n'est pas chrétien, d'après les préceptes qu'on m'a enseignés, de rendre esclave, de traiter quelqu'un, quelque autre humain, de la même façon que nous traitons les esclaves. Conclusion, je ne dois pas accepter l'idée que les esclaves sont des êtres humains. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est... il est partisan, lui, du monogénisme. Il dit, nous sommes tous des hommes et tous de la même espèce. Et par conséquent, nous ne pouvons pas traiter d'autres membres de notre même espèce de cette façon-là, sinon on n'est pas des bons chrétiens. Donc il faut le lire à l'envers. Donc vous avez ce débat qui est à l'époque plutôt de nature en fait morale et théologique. Et puis à un moment, bien longtemps après, donc ça c'est au 19e siècle, arrive un élément très nouveau dans le débat qui est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Alors cette théorie, on va dire faire un résumé très simple, elle dit que tous les êtres vivants descendent les uns des autres et qu'il ne reste pas, les espèces vivantes ne restent pas identiques au cours du temps. Elles ne font que changer tout le temps. Elles évoluent. Et donc, voici l'opinion de Darwin sur le débat entre les polygénistes et les monogénistes. Donc, on a étudié l'homme avec le plus de soin qu'aucun autre être organisé, mais les savants les plus éminents n'ont pu se mettre d'accord pour savoir s'ils forment une seule espèce ou deux, trois, quatre. À chaque fois, il cite un des savants en question qui défend l'idée qu'il y a une, deux, trois, quatre races. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, 11... 15, 16, 22, 60 ou 63 races. Cette diversité de jugement ne prouve pas que les races humaines ne doivent pas être considérées comme des espèces, mais elle prouve que ces races se confondent les unes avec les autres de telle façon qu'il est presque impossible de trouver des caractères distinctifs évidents qui les séparent les unes des autres. Donc là, le premier argument de Darwin sur cette idée de décomposition de l'homme en différentes races, c'est cette définition des différentes races est complètement imprécise. Vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord entre vous, vous partisans de la division de l'homme en plusieurs races, pour trouver leurs limites de manière consensuelle. Donc, premier argument, il renvoie aux polygénistes en leur disant « mettez-vous d'abord d'accord et puis on verra ensuite hein. ». Deuxième argument, un petit peu plus compliqué. Donc là, il reprend les arguments polygénistes. La question de savoir si l'humanité contient une ou plusieurs espèces a été récemment discutée par les anthropologues avec deux écoles monogénistes polygénistes. Ceux qui n'admettent pas le principe de l'évolution doivent considérer les espèces comme des créations séparées, etc., etc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, si on suppose qu'il n'y a pas d'évolution, alors ça veut dire que les caractères des différentes races restent fixes dans le temps, puisqu'il n'y a pas d'évolution. À ce moment-là, si elles restent fixes, il faut qu'elles aient été différentes depuis le départ. C'est une conséquence logique. Ça veut dire, si on n'admet pas l'évolution, on est obligé d'être polygéniste. Suite de l'argument. D'un autre côté, ceux qui acceptent le principe d'évolution, j'ai supprimé un petit passage qui dit qui sont vraiment beaucoup plus intelligents que les autres, n'auront aucun doute que toutes les races humaines descendent d'un seul stock primitif, qu'ils jugent ou non utile de les désigner comme espèces différentes pour exprimer la quantité de différence entre elles. Donc là, ce qu'il dit, maintenant, si vous êtes, comme moi, convaincu que l'évolution est une réalité, alors les caractères changent au cours du temps, et il est tout à fait normal qu'à partir d'un même stock, on obtienne des choses très différentes à la fin, parce qu'ils ont changé au cours du temps. Et ça, ce sont les races humaines d'après Darwin. Et après, il élabore toute une théorie pour expliquer pourquoi elles ont changé dans cette direction. Donc tout ça, c'est exprimé dans un bouquin qui n'est pas son premier livre le plus célèbre, donc qui est sur la théorie de l'évolution, mais qui est spécifiquement consacré à l'homme, qui s'appelle « L'ascendance de l'homme ». Alors, on traduit souvent « la descendance de l'homme », mais en fait, une meilleure traduction de « Descent of Man », c'est « l'ascendance de l'homme ». Ok. Donc, son deuxième argument, c'est de dire « les caractères évoluent, donc c'est normal qu'il y ait de la diversité, c'est pas choquant ». Donc là, vous avez deux conceptions qui s'opposent. Une conception qui est fixiste, dans laquelle on dit « si on est comme ça, c'est qu'on a toujours été comme ça. Donc, si les noirs sont noirs, c'est qu'ils descendent de noirs. Si les blancs sont blancs, c'est qu'ils descendent de blancs. » Et une conception évolutionniste qui dit « on n'a pas toujours été comme on est maintenant. Et donc, les noirs et les blancs descendent d'un même ancêtre commun qui avait des caractères qu'on ne connaît pas, mais qui était différent et des blancs et des noirs actuels. » Donc vous voyez, avec la théorie de l'évolution, finalement, qui est maintenant admise de manière complètement globale dans le cadre scientifique, le problème de la diversité n'en est plus un. Il est normal qu'il y ait de la diversité, puisque l'évolution est un processus qui en crée en permanence. Alors revenons maintenant sur l'idée de est-ce que l'homme est constitué d'une ou plusieurs espèces. Donc le fait de dire que l'évolution existe et que les caractères sont modifiés ne répond pas à cette question. Vous pouvez avoir une modification de caractère telle qu'on arrive à former des espèces différentes. Alors là, le problème, c'est de définir correctement l'espèce. Donc vous avez, avant la période récente, donc avant le XXe siècle, on va dire, une notion d'espèce qui est une notion typologique, dans laquelle les membres d'une même espèce, les animaux qui appartiennent à une même espèce, c'est ceux qui ressemblent tous à un type particulier. Et ce type, en général, c'est un individu qu'on a choisi et qui est censé représenter vraiment le modèle de cette espèce-là. Donc ça, évidemment, le problème de ça, c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut. Par exemple, si on prend un seul type humain, on dit tous les humains se rapprochent plus de ce type-là qu'ils ne se rapprochent d'aucune autre espèce. Donc on va en faire une seule espèce. Mais on peut aussi bien prendre des sous-types et prendre un noir, un blanc, un asiatique et dire, je rapproche de chacun de ces types tous les noirs, tous les blancs, tous les asiatiques et j'en fais trois espèces. Donc il y a un côté arbitraire à délimiter des types comme ça. Plus récemment, on est arrivé, depuis la théorie de l'évolution, à une notion différente de l'espèce, une notion donc évolutionniste, dans laquelle une espèce, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une lignée d'organismes, c'est-à-dire des organismes qui sont descendants les uns des autres. Et deux espèces, ça va être des lignées qui divergent, c'est-à-dire qui se séparent dans l'histoire, comme par exemple le gorille et l'homme. Ce sont deux lignées qui se séparent, ils n'ont plus rien en commun. Et pourquoi est-ce qu'elles divergent? Parce qu'elles ne se reproduisent pas entre elles. On ne se reproduit pas avec les gorilles, ça vous êtes au courant. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous avez sur ce schéma. Donc dans ce schéma, le temps monte, c'est-à-dire qu'en bas c'est les temps anciens et en haut c'est les temps plus récents. Et bien vous avez une espèce ancestrale qui, à un certain moment de son histoire, va se séparer en deux. Et ces deux espèces, issues de cette séparation, vont évoluer de manière indépendante chacune de son côté. Pourquoi reste-t-elle indépendante? Parce qu'il se met en place entre ces espèces des barrières reproductives, c'est-à-dire un empêchement à la reproduction entre ceux qui viennent de la gauche et ceux qui viennent de la droite. Donc par exemple, le gorille et l'homme. Nous avons un ancêtre commun, quelque part, il y a environ 6 millions d'années, et les lignées qui ont mené au gorille et à l'homme ont divergé. Pourquoi? En grande partie parce qu'à un certain moment, elles ont perdu la capacité de se reproduire entre elles. Donc de ce point de vue-là, une espèce est une communauté de reproduction. Or ça, tout le monde sait depuis très longtemps par l'expérience que l'ensemble des hommes forme une seule communauté de reproduction, c'est-à-dire que n'importe quel homme est capable d'avoir des descendants avec n'importe quelle femme ou qu'on les prenne dans le monde. Donc, l'homme forme une seule espèce, mais avec une diversité d'apparence physique, qui est celle qu'on appelait diversité raciale, donc au début. C'est une situation intéressante parce que c'était pas gagné, enfin, il n'y a rien qui justifie en particulier le fait qu'il n'y ait qu'une seule espèce humaine, ça n'a pas toujours été le cas. En particulier, donc dans l'histoire récente, attention, je m'entends, c'est quelques centaines de milliers d'années, hein, quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'années, dans l'histoire récente de notre lignée, il y a eu une période où très probablement coexistaient deux espèces humaines, donc celle de gauche qu'on appelle l'homme de Néandertal et celle de droite qu'on appelle l'homo sapiens, qui nous ressemble, qui est nous, quoi, enfin celle qui est... Et apparemment, l'homme de Néandertal s'est éteint il y a environ 100 000 ans, entre 60 et 100 000 ans, je pense. Et du coup, il n'en reste plus qu'une. Mais vous voyez que ce n'était pas gagné qu'il n'y ait qu'une seule espèce humaine. Alors, il y a encore des débats pour savoir si réellement c'était deux bonnes espèces, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de reproduction possible entre les deux. Parce que, évidemment, si vous n'avez que quelques ossements à regarder, ce n'est pas évident de savoir... On ne peut pas leur demander quoi si faisaient ça ensemble de temps en temps ou pas. Mais en tout cas, rien n'obligeait à ce qu'il n'y ait qu'une seule espèce humaine. De fait, il n'y en a qu'une, actuellement. Alors maintenant, je vais passer à la diversité des caractères et la façon dont ces caractères se transmettent. Donc ça inclut deux questions. C'est quand on voit des variations entre les gens, est-ce que ces variations sont de nature transmissible, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent passer d'une personne à l'autre, et en particulier de parent à enfant, et est-ce que cette transmission est de nature génétique ou pas? Alors là, vous avez toute une diversité de situations. Vous avez des caractères dont la transmission est 100% génétique, c'est-à-dire ils sont inscrits dans notre patrimoine héréditaire sur la molécule d'ADN, et quel que soit l'environnement dans lequel on est élevé, les conditions de vie, etc., ils vont toujours s'exprimer de la même façon. Un des caractères que vous connaissez sans doute de ce type-là, ce sont les groupes sanguins. Donc vous savez, ce sont des caractères que normalement on a déterminés pour chacun de vous, au moins une fois dans votre vie. À votre naissance, normalement, vous avez déjà votre groupe sanguin établi. Et qui sont très utiles parce que si vous avez besoin d'une transfusion, il faut absolument savoir de quel groupe sanguin vous êtes pour ne pas risquer de gros problèmes. Donc les groupes sanguins, en fait, ce sont des molécules qui sont à la surface de nos globules rouges dans le sang et qui vont nous apparenter à un type ou à un autre. Donc par exemple, si vous regardez le dessin de gauche, donc le rond rouge, c'est un globule rouge. Et autour de lui, vous avez des molécules de surface, dont la nature n'est pas forcément importante ici, mais vous voyez qu'elles sont d'un seul type, que j'ai représenté par un triangle bleu. C'est pour ça, donc là, par exemple, ça sera le type A. Moi, par exemple, je suis du type A. C'est-à-dire qu'autour de mes globules rouges, il y a ces molécules de type A. Vous avez d'autres personnes qui ont des molécules de type B, donc ici, le deuxième dessin. Puis vous en avez qui ont les deux à la fois, et qu'on va appeler des AB, et puis vous en avez qui n'en ont aucune, qu'on appelle des O. Donc normalement, si vous avez déjà eu une prise de sang, vous savez, pour chacun d'entre vous, si vous êtes A, B, AB ou O. Donc ça, c'est ce qu'on peut détecter sur vos globules sanguins, en utilisant certaines molécules qui permettent de détecter la présence du A, du B ou d'aucun des deux. Et en fait, lorsqu'on est AB, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'on dispose à la fois des gènes capables de faire du A et des gènes capables de faire du B, c'est-à-dire c'est ma mère qui m'a donné A et mon père qui m'a donné B, ou alors l'inverse. Lorsqu'on est O, par exemple, ça veut dire qu'on a ni l'allèle A ni l'allèle B, mais un troisième allèle qui s'appelle l'allèle O. Et ça veut dire qu'à la fois ma mère et mon père m'ont donné cet allèle O. Et puis vous avez d'autres situations. Par exemple, quand mon père m'a donné un gène A, ma mère m'a donné un gène A, à ce moment-là je suis AA et donc je ne produis que des molécules A. Ou alors, mon père m'a donné du A et ma mère m'a donné un allèle O qui ne produit rien, et donc je produis toujours que du A, et donc je suis toujours A. Donc vous avez toutes ces différentes génotypes en dessous qui correspondent chacun à une formule sanguine. Donc ça, ce sont des caractères parfaitement génétiques, c'est-à-dire que si vous connaissez les parents, vous êtes capable de prédire quel type de descendants ils vont produire. Et en fait, si vous êtes né avec un caractère comme ça, par exemple, moi je suis né du groupe A, ça ne changera pas au cours de ma vie, c'est absolument impossible, je resterai toujours du groupe A. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise ce genre de caractère pour la recherche en paternité, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes du groupe AB, on sait très bien que votre père ne peut pas être du groupe O. Puisqu'il vous a donné soit du A, soit du B, mais il faut bien qu'il vous l'ait donné à un moment. Donc ça permet d'établir si les paternités biologiques sont bonnes ou pas. Vous avez d'autres caractères beaucoup plus variables dans le génome. Alors vous savez que le génome s'est fabriqué avec de longues molécules d'ADN qui contiennent une sorte de message codé dans lequel on a des codes à quatre lettres, comme ça, avec des A, des G, des C, des T. Dans cet ADN, vous avez beaucoup de choses qui sont utiles et beaucoup de choses qui sont inutiles. Et parmi les inutiles, il y en a qui servent à rien pour l'organisme, mais qui sont utiles pour la génétique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très variables. Donc c'est le cas en particulier de séquences répétées qu'on appelle des microsatellites, dont vous avez un exemple ici. Donc, ici vous avez un extrait d'une molécule d'ADN avec des séquences vertes et bleues, qui encadre une séquence noire. Et vous voyez que cette séquence noire est formée de la répétition d'un même motif, répété plusieurs fois. Ce qui est intéressant dans ces séquences, c'est que très souvent, lorsqu'on les recopie pour les transmettre à nos descendants, eh bien, on fait des erreurs. C'est-à-dire que la machinerie qui est chargée de recopier toute cette séquence va souvent se tromper et rajouter ou enlever une répétition. Et du coup, on obtiendra la même chose, mais un petit peu plus longue. Donc ici, on a 7 répétitions de ce petit motif AT, puis ici, on en a 9. Du coup, avec toutes ces erreurs de copie, on va avoir une très forte variabilité entre les individus de la taille de ce fragment. Si bien que quand vous regardez chez une personne ce qui existe entre le fragment vert et le fragment bleu, ben vous allez trouver des fois 7, et puis chez une autre personne, vous trouverez 9. Donc de manière très générale, quand vous prenez un gène de ce type chez une personne et chez l'autre, 90% du temps, c'est différent. Donc c'est quelque chose d'extrêmement variable. Donc c'est ce qu'on fait, par exemple ici. Donc la longueur de ce truc-là est détectée par un pic. Et puis vous voyez que vous avez deux pics, ça veut dire que la personne a un fragment de cette longueur-là, qui fait à peu près 7, et puis un fragment ici qui fait 9. Donc elle a reçu de son père, par exemple, un fragment qui faisait 7 et de sa mère un fragment qui faisait 9. Et puis une autre personne va avoir 4 et 6 comme longueur, mais très rarement la même chose. Donc ça veut dire que deux individus n'ont jamais, pratiquement jamais, la même formule pour ce type de gène-là. Donc si vous en prenez plusieurs comme ça, donc ici vous en avez un rouge, un vert, un noir, un bleu, et bien la probabilité que deux individus soient identiques pour l'ensemble de ce que vous avez regardé, elle est presque nulle. Elle vaut moins que 1 sur 1 million. Du coup, c'est une sorte de signature génétique. Personne n'est identique à une autre personne pour ce genre de gène. C'est ce qui est utilisé en médecine légale pour reconnaître les personnes. Donc par exemple, lorsqu'une personne a laissé un cheveu ou quelque chose d'elle sur le lieu d'un crime, ben on peut analyser ce cheveu, regarder quelle est la séquence et le comparer avec une séquence ou avec une formule issue du sang d'un suspect. Et si jamais ça correspond, c'est que avec très peu de probabilité de se tromper, moins d'une chance sur un million, cette personne-là était présente sur le lieu du crime. Donc ça, c'est un des moyens de détecter de la diversité. Maintenant, plus récemment, on est arrivé technologiquement à séquencer l'ensemble du génome d'une personne. Donc ça, c'est arrivé dans les années 2000, début des années 2000. Et puis maintenant, on commence même à avoir une dizaine de personnes qui ont été complètement séquencées comme ça, c'est-à-dire dont on a la séquence totale de tout l'ADN, ce qui fait des milliards et des milliards de lettres comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne que globalement, la diversité est très faible. C'est-à-dire que lorsque vous comparez votre génome à celui de n'importe qui d'autre, eh bien, vous avez 99,85% de tous ces signes-là, de toutes les lettres, en commun. Donc, ils sont identiques sur quasiment la totalité. Il en reste 0,15%, c'est-à-dire à peu près un pour mille, qui sont différents entre deux personnes. Donc il y a beaucoup plus de choses qui nous font ressembler entre nous que des choses qui nous font différer. D'accord ? Donc il y a peu de diversité globalement dans notre génome. Et ça, comme je vous l'ai dit, Là où on trouve beaucoup de diversité, c'est souvent dans des zones du génome qui ne servent à rien, c'est-à-dire qui ne fabriquent pas de protéines, qui ne sont pas utilisées pour la survie de l'organisme. Donc c'est plutôt du génome poubelle, entre guillemets, qui fait qu'on est différent entre nous, alors qu'on est plutôt semblable pour tous les gènes utiles. Donc là, j'étais vraiment descendu au niveau du génome, au niveau moléculaire. Maintenant, les choses qu'on voit, les caractères qu'on voit, c'est pas facilement au niveau moléculaire. On ne demande pas le groupe sanguin aux gens. Il y a des caractères qui sont visibles, comme par exemple la taille, qui ont une forte diversité. Donc vous avez des gens petits, des gens grands, ça vous l'avez déjà tous vu. Ces caractères sont soumis en général à un mélange d'influences génétiques et environnementales. Donc vous voyez comment on représente ce type de caractère. Ben, on va représenter une distribution, c'est-à-dire que on va représenter ici les tailles des hommes, par exemple. Ça peut aller de 1m50, donc là c'est les hommes adultes, un peu moins d'1m50 à un peu plus de 2m. Et pour chacune de ces tailles, on va mettre la proportion de personnes qui sont dans cette catégorie de taille dans la population. Là, vous voyez que, par exemple, l'essentiel des hommes se trouve autour de 1m75 dans la population française actuelle. Et puis, vous avez autour de cette moyenne de 1m75 une variabilité, et la diversité se trouve là. C'est en mesurant cette variabilité qu'on va savoir s'il y a beaucoup de diversité ou non. Dans la population française actuelle, en gros, l'essentiel des gens se trouve entre 1m55 et 1m95. Et dans toute cette variation, on est capable de savoir quelle part de cette variation est due au fait que les personnes ont des gènes différents et quelle part est due au fait que leurs conditions de vie sont différentes. Vous savez qu'on peut être grand parce qu'on a un capital génétique qui fait qu'on est grand. Par exemple, si on a les deux parents qui sont grands, on a de fortes chances que le descendant soit grand. Mais on peut aussi être grand parce qu'on a été nourri d'une certaine façon, ou au contraire petit parce qu'on a été nourri d'une certaine façon. Donc, en gros, actuellement, ce qu'on a comme données indique que pour la variation de taille, on a entre 60 et 70% de cette variation qui provient des gènes et 30% qui est plutôt dû à l'alimentation, aux conditions de vie. Et puis enfin, vous avez des caractères dont la transmission est essentiellement ou même complètement culturelle, c'est-à-dire qui ne dépend pas des gènes. Un de ces caractères, par exemple, c'est la langue. Donc, on hérite de la langue de nos parents. Pourquoi ? Parce qu'ils nous l'apprennent, c'est évident. On parle français parce que nos parents parlent français, on parle anglais parce que nos parents parlent anglais. C'est pareil pour la religion, les croyances, les coutumes, une grande partie de nos comportements, qui font d'ailleurs l'essentiel de notre identité telle qu'on la perçoit. Cette transmission est à la fois horizontale et verticale. Alors verticale, ça veut dire que ça se transmet de parent à enfant. Horizontale, ça veut dire que ça se transmet entre personnes qui ne sont pas apparentées par l'explication ou par la conviction. Donc par exemple, une religion peut se transmettre entre personnes autres que de parent à enfant parce que on l'explique. Une conviction politique ou une conviction morale peut se transmettre de la même façon, oralement. Donc tout ça pour dire qu'en fait, à un certain niveau, ces pensées ont leur existence propre et elles vont se transmettre d'un cerveau à l'autre parce que les gens se les transmettent oralement. Donc on est en quelque sorte une sorte d'écosystème pour nos pensées et nos pensées se transmettent de personne à personne, un peu comme un virus, si vous voulez, en sautant de l'un à l'autre. Alors, il existe des débats sur la nature génétique ou non de certains traits, débats qu'on entend régulièrement dans les médias. Alors, en particulier, il y a des débats sur la nature génétique de la sexualité. Par exemple, le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel, est-ce que c'est quelque chose qui est déterminé par les gènes ou non ? Il existe des débats similaires sur la nature génétique ou non de l'intelligence. Est-ce que le fait d'être intelligent ou non, c'est quelque chose qui dépend de nos gènes ? Donc ça sont des débats qui émergent d'une chose, ça vient du fait qu'il est très difficile de séparer pour ce type de caractère les effets génétiques et les effets culturels, c'est-à-dire ceux qui sont liés à nos gènes et ceux qui sont liés à un apprentissage ou au milieu dans lequel un individu grandit. Un des exemples les plus fameux, c'est l'étude de l'héritabilité du quotient intellectuel. Alors, vous savez ce que c'est le quotient intellectuel ? C'est une espèce de note qu'on met aux gens à partir d'une série de tests psychologiques sur leur aptitude à faire un certain nombre de tâches prédéterminées. Beaucoup de gens interprètent ces coefficients, ces notes, comme des preuves d'intelligence ou non. C'est-à-dire, si vous avez un fort quotient intellectuel, on vous jugera plus intelligent ou moins intelligent. Donc ça, c'est toute une question d'interprétation. Et l'hérédité de ce caractère-là, le quotient intellectuel, a été l'objet de débats innombrables. En fait, pourquoi ? Il est très clair qu'il y a une transmission de parents à enfants des valeurs du quotient intellectuel. Les parents qui ont un fort quotient intellectuel ont des enfants ayant un fort quotient intellectuel. Le problème, c'est que tout ceci peut être lié à de la transmission familiale qui est de toute autre nature que de la transmission génétique, puisque les parents, évidemment, éduquent leurs enfants. Donc, les dernières études qu'on a montrent qu'il y a à peu près 34% de la variation de cette mesure qu'on appelle le quotient intellectuel, qui est de la variation génétique transmissible de parent à enfant. Mais ces mêmes études montrent qu'il y a aussi de la transmission non génétique, c'est-à-dire que lorsque vous prenez des enfants adoptés, donc qui ne sont pas génétiquement liés à leurs parents d'adoption, eh bien, il y a quand même une forte transmission des valeurs de quotient intellectuel entre les parents adoptifs et leurs enfants. Donc il y a une part de transmission génétique et une part de transmission non génétique. Ce qui est plus problématique, c'est quelle est la motivation qu'ont eu les chercheurs à essayer de mesurer ces différences de quotient intellectuel et la nature génétique ou non. Donc là, il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit, très très intéressant, qui a été publié par Stephen Jay Gould, donc un Américain, qui s'appelle « La malmesure de l'homme » et qui essaye de faire l'historique de toutes ces tentatives qu'ont eu des scientifiques à un moment ou à un autre de classer les hommes en fonction de leur intelligence ou de leur aptitude intellectuelle et pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, lorsqu'on remonte à la motivation de ces recherches, la plupart ont des motivations de type eugéniste. Alors, qu'est-ce que c'est l'eugénisme ? L'eugénisme, c'est une politique ou une volonté d'améliorer génétiquement la race humaine, enfin, le genre humain, en pratiquant de la sélection. Un peu comme on le fait avec les animaux domestiques. Voilà, je voudrais des chiens de combat, alors je les sélectionne pour qu'ils soient de plus en plus féroces. Je voudrais des êtres humains très intelligents, alors je les sélectionne pour qu'ils soient très intelligents. Cette motivation est ce qui a généré toutes ces recherches sur l'héritabilité du quotient intellectuel. Alors au départ, ce n'était pas d'ailleurs le quotient intellectuel, c'était l'héritabilité de la taille du crâne, parce que les gens étaient persuadés que la taille du crâne, et donc du cerveau, était un facteur important d'intelligence, ce sur quoi maintenant on n'est plus persuadé du tout. Donc la critique qui va avec ça, c'est que à quoi nous ont mené ces idées eugénistes ? Eh bien, historiquement, vous savez peut-être à quel moment elles ont culminé, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'extermination des Juifs dans les camps sous ces principes-là, c'est-à-dire pour améliorer la race humaine. Donc ce qui est très clair, c'est que quelle que soit la réalité des chiffres sur l'héritabilité du QI, la motivation qui a poussé les chercheurs à rechercher quelle était la valeur de l'importance des gènes pour la détermination du QI était de ce type-là, et que ça sent franchement mauvais parce que ça nous rapproche de politiques qui ressemblent un peu à celles qui est appliquée, qui a été appliquée pendant le Troisième Reich. Par ailleurs, donc ce qu'a montré Stephen Jay Gould, c'est que ce QI, donc ces tests qui sont faits pour mesurer soi-disant l'intelligence, ont été définis un peu arbitrairement comme mesurant une seule compétence, alors qu'en fait, les différentes parties du test mesurent des aptitudes complètement différentes. Donc en les regroupant, on essaye de faire une espèce de somme un peu artificielle, mais on fabrique une variable qui en fait n'existe pas dans les faits comme une seule variable. Donc l'intelligence générale, ça n'existe pas vraiment, on a plutôt des aptitudes à faire différentes tâches. Et donc, ce qu'il a montré, c'est que ces recherches de QI ont été très directement utilisées pour pratiquer des politiques eugénistes, non seulement par l'Allemagne nazie, mais aussi par les États-Unis, la Norvège, d'autres pays occidentaux. Donc, il y a vraiment une motivation fondamentale dès que vous voyez des études qui vont annoncer la nature génétique ou non de l'homosexualité, de l'intelligence, de l'aptitude artistique, j'en sais rien, quoi d'autre. Ce qu'il faut se poser, c'est pas tant la question est-ce qu'ils ont raison ou pas, est-ce qu'il y a 34% de variance génétique ou alors est-ce qu'il y en a 10% ou alors est-ce qu'il y en a 50%. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la motivation du chercheur qui est allé recueillir cette donnée-là et qu'est-ce qu'il veut en faire après. Donc là, il faut vraiment se méfier des dérives eugénistes possibles sur ce type d'étude de la diversité humaine. Alors maintenant, je vais revenir à de la diversité génétique plus générale et essayer de comprendre la géographie et l'histoire de la diversité génétique humaine. Donc la première question là, c'est comment mesurer la diversité entre des populations humaines éloignées que je vais aller échantillonner dans le monde entier. Donc qu'est-ce que c'est qu'une population d'abord ? Ben, ça va être juste un groupe d'individus qui sont à un endroit précis, donc géographique, et en général, donc les généticiens se sont accordés à considérer comme une population des individus qui parlent la même langue. Ça permet de faire facilement des groupes. Et lorsqu'on mesure des populations différentes, eh bien on peut décomposer la diversité en deux niveaux. Un niveau qui va être à l'intérieur des populations et un niveau qui va être entre populations. Ici, nous faisons tous partie de la même population. On est dans la population française vivant dans le sud de la France. Maintenant, si on avait une autre population à notre disposition, ben on peut avoir plusieurs situations. On peut avoir une situation comme en haut, où il n'y a aucune diversité à l'intérieur de chaque population, mais elles sont très différentes entre elles. C'est-à-dire quand on prend un individu de l'une et un individu de l'autre, ils sont différents, tout le temps. À l'opposé, vous pouvez avoir une situation comme en bas, où vous avez les deux populations qui sont exactement pareilles, mais à l'intérieur de chacune, il y a de la diversité avec des boules vertes et des boules rouges. Donc, dans la situation du haut, on dit que la diversité intra-population est de 0% et la diversité entre populations est de 100%. Dans la situation du bas, c'est l'inverse. Et puis, vous avez des situations intermédiaires. Lorsqu'on prend des populations humaines, donc les gens ont été cherchés dans le monde entier, au Japon, en Amérique, en Australie, en Europe, en Afrique. De manière très générale, deux hommes d'une même origine géographique sont presque aussi différents entre eux que deux hommes de population même éloignée. C'est-à-dire que l'essentiel de la variation se retrouve à l'intérieur des populations. Nous sommes presque aussi différents entre nous ici dans cette salle que si on prenait nous et des Japonais, ou nous et des Australiens, ou nous et des Africains. Et cette situation est assez spéciale en fait. L'homme est une espèce particulière, donc d'avoir juste assez peu de variabilité entre les populations et beaucoup à l'intérieur, c'est très différent de ce qui se passe par exemple chez les deux espèces les plus proches de l'homme, qui sont le gorille et le chimpanzé, chez qui vous avez 38% ou 32% de différence entre les populations, et non pas 5 ou 10% comme chez l'homme. Alors regardons ça pour un gène en particulier. Donc je reprends l'exemple des groupes sanguins A, B et O. Ici vous avez une carte des fréquences, c'est-à-dire des pourcentages de personnes qui portent l'allèle O dans différents endroits du monde. Vous voyez que ça va de 50%, donc c'est l'allèle majoritaire, hein, de manière générale c'est ce qu'il y a le plus fréquent. 50% des gènes sont O dans les zones jaunes, et puis quand vous allez vers le bleu, vous arrivez à 100%. Vous voyez que globalement, on a à peu près tous les mêmes allèles dans le monde. On a tous des A, des B et des O, sauf qu'on a des variations de quantité de O. En particulier, vous avez quelque chose d'assez frappant en Amérique, où vous avez des fréquences de O qui augmentent jusqu'à ce qu'il y en ait quasiment 100%. Alors attention, ici on n'a pas pris des populations comme les populations de cette salle, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux gens dont on sait qu'ils sont natifs depuis longtemps de l'endroit en question. Donc on sait très bien que l'Amérique a eu une histoire récente de colonisation par des Européens, donc depuis 500 ans. Donc là, on s'est intéressé aux Indiens d'Amérique, aux gens qui sont originaires de ces endroits-là. Alors, comment est-ce que ça peut varier comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes quantités de gènes O? Ben, le processus principal qui fait varier ça, c'est le hasard. Comment ça se passe? Ben, imaginez que vous avez une population de départ avec des O, des A et des B. C'est celle qui est représentée en haut. Et puis, à un moment, une petite partie de cette population décide de partir, de migrer et d'aller fonder une nouvelle population plus loin. Lorsque ces quelques immigrants partent, eh bien, ils n'en partent pas forcément avec eux toute la diversité qui existait dans la population de départ. Par exemple, ici, par hasard, il y a sept migrants qui sont partis, et dans ces sept migrants, il y avait 5 O et 2 A. Et puis, ils sont allés fonder une nouvelle population plus loin. Donc là, ils se sont reproduits, ils ont augmenté en nombre. Et on se retrouve avec une population d'arrivée où il y a beaucoup de O, un peu de A et plus du tout de B. Vous voyez qu'au passage, on a perdu un peu de diversité, et en particulier, on a perdu l'allèle B dans ce cas-là. Puis vous pouvez répéter ce processus à chaque fois. Si jamais un petit groupe de migrants s'en va fonder une nouvelle population, ben il peut perdre des gènes en route. Donc ce processus s'appelle l'effet de fondation ou encore la dérive génétique, et c'est le fait que juste par le hasard des fondations, comme ça, vous allez avoir des changements qui se passent, des changements de composition génétique de ces populations humaines. Et c'est ce qui est arrivé très probablement au cours de la colonisation de l'Amérique. Donc l'homme est arrivé en Amérique probablement il y a 30 ou 40 000 ans, et puis peu à peu, par des migrations successives, il est descendu le long de l'Amérique jusqu'à l'extrême sud, donc la Terre de Feu tout en bas. Donc ce phénomène fait que géographiquement les populations vont devenir différentes au fur et à mesure que la colonisation de l'homme progresse dans le territoire. Et donc on va avoir l'histoire de l'homme et de ses colonisations qui est retracée par la diversité génétique comme ça. Un autre système qui a été très étudié pour comprendre cette histoire de colonisation, c'est l'ADN mitochondrial. Alors, qu'est-ce que c'est les mitochondries? C'est une espèce de petit compartiment dans nos cellules qui contient de l'ADN. Mais cet ADN, il a une propriété spéciale, c'est que la plupart du reste de l'ADN, on en a la moitié qui vient de notre père et l'autre qui vient de notre mère. Mais l'ADN mitochondrial ne nous est donné que par la mère. Donc les pères ne transmettent pas leur ADN mitochondrial. Ça vient uniquement de la mère. Du coup, on n'a pas à se préoccuper des hommes. De toute façon, eux ne transmettent jamais l'ADN mitochondrial. On ne considère que la population de femmes. Et l'ADN mitochondrial se transmet en quelque sorte de mère en fille, sans contribution des hommes. Imaginons une population de femmes, là, représentée par ces quatre ronds roses à gauche. Ben, chacune d'entre elles, mettons, va avoir une fille et va lui transmettre son ADN mitochondrial. Donc, c'est ce qui est représenté à la génération suivante. On se retrouve avec quatre autres individus. Alors, vous pouvez avoir à certaines générations des mères qui ne font pas de filles, par exemple parce qu'elles ne produisent que des descendants mâles, et d'autres qui produisent deux filles. À ce moment-là, celle-ci va transmettre son ADN mitochondrial à celle-ci et celle-là. Et on peut continuer comme ça dans la population. Ici, vous avez un autre événement du même type, et ici encore un, jusqu'à la population actuelle qui se trouve ici. Alors maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de reprendre ce même processus, mais à l'envers. Si je remonte le temps, je pars de la population actuelle où j'ai 4 ADN mitochondriaux différents. Je remonte. À un certain moment, c'est le même graphique que tout à l'heure, je le lis dans l'autre sens, en remontant le temps. Je m'aperçois que 2 de ces ADN mitochondriaux, en fait, sont issus du même. Et puis, je continue comme ça. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, qui peut être assez long, tous les ADN mitochondriaux de la population actuelle ne viennent que d'un seul et unique ADN mitochondrial ancestral. Donc là, je vous l'ai fait avec 4 individus, mais évidemment, ça peut marcher aussi avec des millions ou des milliards d'individus. Donc ça veut dire que tous les ADN mitochondriaux que nous portons, si on remonte suffisamment loin dans le temps, sont la copie d'un seul et unique ADN mitochondrial porté par une femme du passé. C'est elle qu'on appelle l'Ève mitochondriale. Elle a transmis son ADN mitochondrial au monde entier. Essayons de chercher où elle est, celle-là. Donc là, on a séquencé des ADN mitochondriaux de plein de gens venant d'endroits différents du monde, qui sont les régions en couleur. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on peut reconstituer un arbre généalogique de tous ces ADN, qui est celui-ci, qui nous dit, il y a 160 000 ans, on trouve notre Ève mitochondriale qui a donné naissance à 2 lignées, puis celle-ci a encore donné naissance à 2 lignées, etc. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe en Afrique subsaharienne, eh ben, on a l'essentiel de toutes les lignées produites par cette Ève mitochondriale qui se trouve en Afrique subsaharienne. Le reste du monde, c'est-à-dire le rouge, le rose, le vert, le violet, tout ça provient uniquement d'une sous-lignée ici, M, qui est elle-même une sous-lignée d'une sous-lignée d'une sous-lignée d'une sous-lignée d'une sous-partie d'une lignée africaine. En gros, ce que vous dit cet arbre, c'est que la diversité qu'il y a entre 2 Africains est très nettement plus élevée que la diversité entre n'importe quelle paire d'individus pris ailleurs dans le monde. Donc l'ève mitochondriale, elle était en Afrique quelque part il y a 160 000 ans. Et lorsqu'on fait le même raisonnement avec le chromosome Y, alors vous savez que les chromosomes Y, eux, se transmettent de père en fils, ils ne passent pas par les femmes, on trouve exactement le même résultat. Ouais, j'ai terminé. Donc, la diversité génétique humaine, en fait, d'où vient-elle? Elle résulte d'une histoire d'extension démographique et géographique à partir de l'Afrique, suivie d'échanges continus entre populations, sans frontières très nettes. Donc ça, c'est un espèce de résumé. Il y a 100 000 ans, tout le monde en Afrique. Entre 100 000 ans et 60 000, une dispersion à l'intérieur de l'Afrique, et puis après, ça sort de l'Afrique. Et très très récemment en Amérique, donc c'est pas mis sur les images. Voilà la situation actuelle. Je vais passer tout ça. Pour en arriver sur ce point-là, donc là je me demande si la sélection naturelle a contribué à forger notre diversité actuelle ou pas. Et là, je me suis intéressé à un caractère en particulier parce qu'il est très visible, c'est celui de la couleur de la peau. Donc tout le monde sait qu'il y a des différences de couleur de peau. Vous avez en bas une carte de la distribution des couleurs de peau. Donc évidemment, les couleurs plus sombres désignent des peaux plus sombres. Et vous voyez que les peaux claires sont très abondantes partout dans les régions de haute latitude, donc très loin de l'équateur. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, ça résulte d'une sélection naturelle. La peau noire, enfin, ou foncée, est un avantage pour se protéger contre l'excès de rayonnement ultraviolet, qui, vous savez, est cancérigène. Enfin, tous ceux qui ont la peau un peu blanche et qui ont essayé de s'exposer en plein soleil, ils savent ça. C'est plus pratique pour ceux qui ont la peau plus noire. Par contre, avoir la peau claire est un avantage dans une région où il y a peu d'ensoleillement parce que on a besoin de récupérer des UV pour stimuler la production de vitamine D dans notre corps. Donc si on les bloque avec une peau trop sombre, évidemment, ben, on fabrique moins de vitamine D. Et ce qui a été montré par les scientifiques, c'est que en Europe et en Asie, on a indépendamment obtenu des peaux claires. Mais ce ne sont pas les mêmes gènes qui font ça. C'est-à-dire il y a les gènes européens de peau claire et les gènes asiatiques de peau claire qui ont été sélectionnés par la sélection naturelle dans ces deux régions, si bien qu'on est arrivé à des populations à peau très claire, mais ça ne s'est pas fait... ce ne sont pas les mêmes gènes qui ont été sélectionnés. Donc ça veut dire qu'en gros, on avait une origine... À l'origine, l'essentiel des gens avait la peau sombre. Et c'est en colonisant des aires où il y avait moins de rayonnement solaire que du coup la sélection naturelle a favorisé des génotypes à peau plus claire. Donc je vais juste aller directement à la conclusion. Donc j'ai trois slogans de conclusion. Le premier, c'est le titre d'une exposition qui avait eu lieu il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années peut-être, au Musée de l'Homme. Il s'appelle « Tous parents, tous différents ». En gros, il n'y a pas une très forte diversité génétique chez l'homme parce qu'on est une espèce récente et qu'on est donc tous parents et tous parents assez proches. Et en plus, cette diversité génétique n'est pas très structurée dans l'espace, c'est-à-dire que les différentes populations se ressemblent beaucoup. Deuxième conclusion, nous sommes tous des Africains. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du monde, c'est une sorte d'extrait assez peu représentatif d'ailleurs de l'Afrique. C'est comme si on avait pris 10% de l'Afrique et qu'on l'avait réparti ailleurs. Alors actuellement, tout ça est en train de se mélanger parce que la migration n'a jamais été aussi forte entre les populations humaines que maintenant. Et enfin, nos apparences reflètent essentiellement, donc notamment la couleur de notre peau, les conditions de vie de nos ancêtres. Donc la diversité des caractères physiques n'est en partie le fruit du hasard, mais elle est aussi en partie due à une sélection naturelle passée, qui est déterminée par l'environnement, le climat, mais aussi par les changements que l'homme a imposés à son cadre de vie. Alors, il est clair que la sélection naturelle qui a lieu actuellement n'est pas représentative de celle qui a eu lieu à l'époque où nos caractères se sont constitués. Par exemple, la myopie devait être un caractère fortement négatif à une certaine époque, mais maintenant qu'il y a des lunettes, évidemment, ça l'est moins. Et enfin, la question qui est importante, c'est, sachant qu'on a de plus en plus de données sur cette diversité génétique humaine, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et là, il y a vraiment une question de responsabilité. La plupart des chercheurs qui actuellement produisent des données sur la génétique humaine le font en annonçant un objectif thérapeutique, c'est-à-dire d'arriver à guérir des maladies génétiques un jour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas très loin du fait de guérir une maladie génétique jusqu'à entreprendre une politique eugéniste du même type que celle qu'on a vue dans l'Allemagne nazie. Et donc, il est clair qu'il y a une réflexion très forte à avoir pour trouver la limite entre ce qu'on peut appeler une utilisation thérapeutique acceptable des données de génétique humaine et ce qu'on peut appeler une dérive eugéniste. Voilà, j'arrête là.